Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les Jeux Olympiques vus sous l'angle du droit administratif. Vous l'aurez compris, il s'agit de la thématique de l'année. Ce n'est d'ailleurs ni le premier ni le dernier podcast sur les JO de Paris que nous réaliserons ensemble. Pour rappel, si cela est nécessaire, les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Les Jeux Paralympiques s'ouvriront le 28 août pour se clôturer le 8 septembre 2024. Manifestation sportive et culturelle d'ampleur, Paris a dû patienter 100 ans pour pouvoir l'accueillir de nouveau. Pourtant, l'organisation de ces Jeux Olympiques peine à susciter l'enthousiasme parmi la population. Et lorsque l'on s'y intéresse, l'on ne peut échapper aux multiples mécontentements. Profondément dispendieuse pour les deniers publics, elle serait effectuée au préjudice des Franciliens. Le gouvernement se servirait de cette occasion pour introduire des mesures législatives et réglementaires présentées comme temporaires ou expérimentales, mais en réalité pour les rendre pérennes une fois les Jeux Olympiques terminés. De multiples contestations donc, des réglementations particulières, les JO se confrontent aux règles du droit public. Et pour aborder la question des JO au regard du droit public, et plus particulièrement au regard du droit administratif, nous avons le plaisir d'accueillir au sein des podcasts de l'ISP, Vincent Mazzocchi, avocat inscrit au barreau de Paris et docteur en droit public. Vincent Mazzocchi, bonjour.
Bonjour Jacob Berry.
On ne va guère donc trahir de secret auprès de nos auditeurs en rappelant que si l'on aborde avec régularité dans nos podcasts le thème des JO, c'est parce que les jurys de concours en ont fait un thème de prédilection. Et la question des JO confrontée au droit public et précisément au droit administratif a donc déjà fait l'objet de questions. On peut se poser tout simplement, nous, la question de savoir ce qui était attendu des candidats et ce qui va l'être encore lorsque la question leur sera reposée d'une manière ou d'une autre, à l'écrit ou à l'oral, puisque ça a déjà été le cas. Vincent Mazzocchi, pourquoi ce thème vous semble à vous particulièrement important ? Pourquoi faut-il aborder la question du cadre légal et réglementaire des JO ?
Alors, Jacob Berby, merci déjà pour votre invitation. L'intérêt, si vous voulez, de revenir sur le cadre légal et réglementaire des Jeux Olympiques est multiple. Alors, il s'agit certes d'un événement sportif majeur, hein, à l'image tout simplement des dernières compétitions que la France a pu accueillir. On pense à la finale de la Ligue des Champions dans les tristes conditions que nous avons pu connaître, ou plus récemment encore, à la Coupe du Monde de rugby à l'automne 2023. Alors cet événement est toutefois d'une dimension supplémentaire par sa taille, mais aussi et surtout parce qu'il s'agit d'un moment où la France sera mondialement exposée et sa capacité à accueillir une telle manifestation sera nécessairement jaugée. Alors dès lors, vous comprendrez sans nul doute que ces Jeux Olympiques, outre l'aspect sportif, présentent évidemment bien d'autres enjeux. Des enjeux économiques, financiers, mais aussi et surtout des enjeux politiques, qu'ils soient au plan local, interne, comme international. Cet événement, donc, qui est par nature exceptionnel, hein, les derniers JO ont été organisés en 1924, vous l'avez évoqué en introduction, impose donc nécessairement d'adapter le cadre légal et réglementaire à l'événement. Et c'est donc ce qui a déjà pu être fait, hein, dès le mois de mars 2018, avec une première loi, la loi 2018-202 du 26 mars 2018, et puis d'autres textes qui ont ensuite été adoptés jusqu'à la loi numéro 2023-380 du 19 mai 2023, qui va modifier un certain nombre d'aspects légaux et réglementaires. Donc vous l'aurez compris, finalement, ces dispositions législatives et réglementaires vont avoir une incidence sur les pratiques administratives, et donc par conséquent, les liens entre les Jeux Olympiques et le droit administratif sont donc bien plus nombreux qu'ils peuvent n'y paraître à premier regard.
Alors vous l'avez dit, c'est déjà un constat, c'est déjà effectif, on a déjà des dispositifs légaux et réglementaires qui ont été adoptés et ça a donc une conséquence effectivement sur le droit administratif, le droit positif applicable. Est-ce que vous pourriez préciser les liens qui existent donc entre l'organisation des JO et ce droit administratif ?
Alors très concrètement, plusieurs dispositifs ont été adoptés ou modifiés, hein, par le législateur, mais aussi par le pouvoir réglementaire depuis 2018. C'est ce qu'on évoquait en question précédente. Alors, si on essaye un peu de systématiser ces dispositifs, et ils sont quand même nombreux, on peut, à mon sens, les regrouper à travers trois volets. Un premier volet qui serait un volet organisationnel et d'infrastructure, un second volet qui serait lié à la mobilité et à la sécurité, et puis un troisième et dernier volet qui est lié en fait tout simplement à la pratique sportive.
Alors je vous propose, Vincent Mazzocchi, de les prendre, hein, successivement. Commençons par ce premier volet, évoquer le volet organisationnel. Comment ces Jeux olympiques sont concrètement organisés? Quel est le rôle de l'État, le rôle des collectivités territoriales, sans doute plus particulièrement le rôle de la mairie de Paris? Et j'ajoute immédiatement une autre question, une question que l'on peut légitimement se poser. Est-ce que les nombreux ouvrages en construction seront complètement achevés dans le délai promis, au plus tard le vendredi 26 juillet 2024, la date d'ouverture des Jeux Olympiques?
Alors, pour répondre tout de suite à cette première question, on l'espère, on ne peut que l'espérer. D'après les dernières informations et à l'heure où nous nous parlons, les pouvoirs publics indiquent que les ouvrages olympiques sont achevés à 84%. Voilà, donc, il reste plus que 16%. Ils devraient normalement pouvoir être terminés. Alors, pour revenir finalement sur cette première question, sur ce volet organisationnel, il faut quand même constater que l'organisation des Jeux olympiques fait intervenir une pluralité d'acteurs. D'abord, à partir de 2018, puisque le législateur est intervenu pour nommer, du coup, par dérogation au Code du sport, première dérogation, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le comité international olympique et le comité international paralympique, donc comme autorité organisatrice des Jeux. Alors, quel est le rôle de la mairie de Paris? La mairie de Paris a, quant à elle, conclu un contrat dit de ville hôte avec le comité international olympique à Lima en 2017, en réalité dès l'annonce que la candidature de la ville de Paris avait été retenue. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, plus précisément, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, donc on abrège en COJO, est en réalité une association de loi 1901. Donc les statuts ont été déposés à la préfecture de police le 22 décembre 2017. Et en termes de budget, elle dispose d'un budget annuel pluriannuel global d'environ 3,8 milliards d'euros. Et contrairement à ce que l'on peut entendre dans la plupart des médias, son financement est à 97% d'origine privée. Ce qui veut dire qu'en fait, les ressources proviennent à titre principal du Comité international olympique et de ses partenaires, du marketing, de la billetterie et des entreprises partenaires, mais aussi du coup du COJO lui-même. Ce qui veut dire qu'en réalité, le financement public est en réalité tout à fait résiduel. C'est à peu près 100 millions d'euros environ, d'après les documents qui ont été fournis, et qui couvrent en fait essentiellement les besoins de fonctionnement des Jeux paralympiques qui, comme vous le savez, sont quand même globalement beaucoup moins médiatisés. Le rôle du COJO, quant à lui, est évidemment de planifier, d'organiser et de livrer les Jeux, ainsi que de financer les dépenses organisationnelles ou de structures provisoires et qui donc, par conséquent, sont non pérennes. En revanche, pour tout ce qui va concerner les ouvrages, puisque deux phases en fait ont été mises en place par les pouvoirs publics, une phase Jeux olympiques et puis une phase ensuite héritage, ça a été confié à une société qui s'appelle la Société de livraison des ouvrages olympiques, le Solideo, qui en fait n'est pas véritablement une société, mais c'est un établissement public industriel et commercial qui a été créé par la loi du 28 février 2017 et dont les statuts ont d'ailleurs été fixés par décret. Tout ça est relativement classique.
Et d'ailleurs, si je puis me permettre, c'est le Solideo qui a publié ce chiffre de 84% d'avancée de la construction des ouvrages.
Exactement.
Pardon, je vous ai interrompu.
Tout à fait, sans problème. Donc son budget pluriannuel, pour reparler un peu de financement, quant à lui, est à parité par des moyens publics et privés. Ils ont une enveloppe à peu près de 3 milliards d'euros, dont environ la moitié provient de l'État et des collectivités territoriales. Alors cet établissement dans lequel l'État détient la majorité des voix au conseil d'administration en sa qualité évidemment de premier contributeur a surtout, comme je l'indiquais à l'instant, pour mission de financer les maîtres d'ouvrage responsables de la construction, de la rénovation et de la reconfiguration après les Jeux des équipements nécessaires à l'organisation de ces derniers. Alors ça permet déjà de constater que finalement ni l'État ni la ville de Paris n'assument directement l'organisation des Jeux olympiques. Et puis dans le même sens, la législation sur la publicité a fait l'objet de certaines modifications pour pouvoir implanter des dispositifs d'affichage, notamment aux abords des monuments historiques, monuments des événements sportifs également, et plus généralement dans tout lieu qui va pouvoir se trouver sur le parcours de la flamme olympique. Et puis, j'ajouterais pour terminer de répondre à cette question que pour ce qui concerne les constructions, eh bien, la loi du 26 mars 2018 apporte de nombreuses dérogations aux dispositions du droit de l'urbanisme, notamment pour pouvoir simplifier et accélérer les projets d'aménagement pour les réaliser en temps requis. Ces dispositions législatives consistent à introduire ce qu'on appelle un permis de construire à double état qui permet une autorisation d'urbanisme unique pour deux destinations, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir la phase des Jeux et la phase héritage, notamment pour le village olympique. Et puis, ils ont également pensé à limiter les recours, ou en tout cas pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible, puisque les litiges désormais concernant ces ouvrages ne sont pas traités d'abord par le tribunal administratif, mais directement par la Cour administrative d'appel de Paris.
Ah oui, c'est effectivement un point essentiel sur lequel nous allons revenir, mais justement, à propos des mécontentements, des contestations et peut-être plus tard des litiges, il y a un point que j'aimerais immédiatement aborder avec vous, c'est une des controverses les plus prégnantes depuis quelques mois. Nous avons appris il y a peu que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et l'État souhaitaient remédier au manque d'hébergement sur Paris et l'Île-de-France en procédant à la réquisition des logements universitaires détenus par le CROUS d'Île-de-France. Qu'en est-il de cette controverse, finalement ?
Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est une question qui était particulièrement actuelle et qui d'ailleurs a suscité énormément d'émotions dans le débat public, certains députés ayant même manifesté de très vives inquiétudes au sein de l'hémicycle et pu poser un certain nombre de questions au gouvernement, puisque on comprend bien que ce procédé pourrait précipiter un public déjà jugé fragile dans une précarité extrême. Alors, pour mémoire, il était annoncé déjà au mois de mai 2023 que le gouvernement entendait effectivement procéder à ces réquisitions de logements qui étaient gérés par le CROUS et plus particulièrement par le CROUS de Paris. Alors, en Île-de-France, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui est chargé de la ville et du logement, avait fait savoir le 2 juin dernier que les CROUS d'Île-de-France ont prévu de mobiliser environ 3 000 des 7 000 logements pour cette période, au sein de 12 résidences sur les 155 que compte le parc francilien. Alors, vous noterez quand même que le ministre fait preuve d'un certain cynisme, puisqu'il expliquait aux députés qui lui en avaient posé la question que chaque étudiant dont le logement serait réquisitionné devrait quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2024, mais que toutefois, il se verrait proposer une solution de relogement durant l'été. On lui offrirait également la possibilité de se voir proposer des missions rémunérées, alors qu'environ à peu près 20 000 billets pour les Jeux Olympiques seraient offerts par l'État à ce public.
Alors, effectivement, on relève un certain cynisme et on pense au public étudiant et on pense à la précarité existant déjà du public étudiant. Bref, allez, avançons. Avançons sur justement le droit administratif et le droit public, parce que je crois savoir, mais je parle évidemment sous votre contrôle, Vincent Mazzocchi, qu'en principe, il n'est pas possible de réquisitionner ou d'expulser d'un logement quelqu'un, spécifiquement s'il se trouve en situation de précarité. Alors, à nouveau, je vous repose la question, qu'en est-il ?
Alors, il faut d'abord rappeler qu'un étudiant qui est locataire d'une chambre implantée au sein d'une résidence universitaire gérée par un CROUS est en fait dans une situation légale et réglementaire différente du locataire qui va louer un local à usage d'habitation. Alors, plus précisément, il faut savoir qu'en principe, le locataire d'une chambre d'un CROUS relève dans la plupart des cas des règles de la domanialité publique, alors que le tribunal des conflits a d'ailleurs récemment unifié le contentieux au bénéfice du juge administratif. C'est jugé spécifiquement par la nécessité d'assurer la continuité et le fonctionnement régulier du service public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, principe de droit public oblige, et spécifiquement de domanialité, les contrats conclus par le CROUS ne le sont en principe que pour une durée d'un an. Ensuite, il faut surtout ajouter que ce procédé a été jugé parfaitement légal par le Conseil d'État, y compris en l'absence de dispositions législatives spécifiques. Il s'est prononcé d'ailleurs dans une décision du 29 décembre 2023, donc extrêmement récemment, à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre, alors même d'ailleurs que la configuration du contentieux ne lui en faisait pas obligation. Il s'agissait ici d'un pourvoi en cassation sur ordonnance de référé suspension, dont d'ailleurs sur une décision qui n'était d'ailleurs plus susceptible de produire d'effet. Et donc, que nous dit le Conseil d'État ? Eh bien, il rappelle que les fonctions du CROUS, qui, faut-il le rappeler, est un établissement public administratif, hein, c'est le Code de l'éducation qui le prévoit, le fait qu'ils ont vocation essentiellement à accueillir, eh bien, tout simplement, un public considéré comme prioritaire par l'État, c'est-à-dire majoritairement des étudiants. Malgré ça, eh bien, le Conseil d'État considère que ce dispositif législatif et réglementaire ne réserve pas les logements exclusivement à un public étudiant et, je cite, hein, que rien ne s'oppose à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024. D'autant plus, le Conseil d'État l'ajoute, hein, que les étudiants touchés se verraient indemnisés, sans préciser d'ailleurs le dispositif, qu'ils pourraient récupérer leur chambre en cas de besoin dès le 1er septembre 2024. Alors, de tels motifs s'avèrent quand même discutables, hein, dans la mesure où le Conseil d'État lui-même reconnaît que les CROUS constituent des établissements publics administratifs, l'intervention de ces derniers est en principe, hein, comme tout établissement public, limitée par un principe de spécialité. Le CROUS, par les dispositions du Code de l'éducation, a vocation à aider un public étudiant, et donc pas en réalité à loger des forces de l'ordre ou tout autre participant aux Jeux Olympiques.
Alors, vous évoquez justement les forces de l'ordre. Partant, vous évoquez le volet sécuritaire, et ça nous permet d'avancer dans ce podcast. Quelles sont les mesures qui vont permettre de favoriser la sécurité pendant les Jeux Olympiques ?
Alors, ce qu'on peut déjà indiquer, c'est qu'en adoptant la loi du 20 mai 2023, donc à l'été passé, parlementaires et gouvernements semblaient poursuivre un triple objectif. Celui d'améliorer l'offre de soins et de formation au premier secours, c'est le premier point, de lutter plus efficacement contre le dopage, c'est le second point, mais aussi garantir une sécurité renforcée durant les Jeux Olympiques, c'est en réalité le troisième objectif qui était poursuivi. Alors, à ce dernier titre, ce que l'on peut ajouter, c'est que les dispositions de la loi du 20 mai 2023 opèrent une modification du droit administratif en vigueur, puisqu'il est prévu que pendant les Jeux Olympiques, le préfet de police de Paris sera le seul à coordonner l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure, et ce, dans toute l'Île-de-France, y compris dans les départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines et de l'Essonne, entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024. Dans le même sens, du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, c'est un dispositif temporaire, le préfet pourra demander la réalisation d'une enquête administrative avant l'affectation d'un personnel intérimaire à une mission de sécurité ou de transport public des personnes. Donc concrètement, il s'agit des stadiers et autres personnels embauchés par des sociétés de sécurité privée, puisque jusqu'à présent, cette enquête ne pouvait avoir lieu qu'a posteriori, quand il y avait un certain nombre de doutes. On ajoutera quand même toutefois que ces mesures, comme je l'indiquais à l'instant, sont temporaires et normalement devraient perdre leur objet au plus tard, le 15 septembre 2024. En termes de mobilité, le texte prévoit également une meilleure coordination entre les forces de police avec celles de la RATP, le GPSR que l'on connaît bien, mais aussi celle de la SNCF, la SUGE, aux abords donc des installations sportives qui leur permettent notamment de procéder à des interpellations ou de constater des infractions.
Merci Vincent Mazzocchi, c'est très clair. Mais là, lorsque l'on évoque le volet sécuritaire, on l'évoque sous l'angle organisationnel, hein, l'organisation administrative et la coordination entre les forces de police, vous l'avez dit, et les autres chargés de la sécurité. Ça va permettre effectivement, encore une fois, une certaine organisation structurelle, une répartition des tâches, ça va permettre de fluidifier la prise de décision en matière de sécurité. Y a-t-il des mesures d'ordre plus matériel, des mesures plus concrètes adoptées en ce sens également ?
Alors, tout à fait, puisque effectivement, si on arrive à fluidifier la prise de décision, encore faut-il que ça puisse se traduire concrètement dans les faits. Alors, depuis la loi du 20 mars 2023, hein, qui est en tout cas du 19 mai 2023, qui est entrée en vigueur le 20 mai, il est prévu à titre expérimental et donc jusqu'au 31 mars 2025. Donc, vous voyez bien que déjà, on a une durée qui excède très largement la durée des Jeux Olympiques. Il est prévu que les forces de police peuvent recourir à une surveillance des abords et des enceintes sportives via des drones qui vont porter ce qu'on appelle des caméras augmentées. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Mais ça signifie que ces caméras seront capables de détecter en temps réel des événements prédéterminés, comme des mouvements de foule, un sac abandonné ou des comportements suspects, dans des lieux qui accueillent des manifestations à leurs abords et dans les transports en commun. Alors, sur ce dispositif, qui avait d'ailleurs suscité une vive émotion à nouveau dans la société civile, qui était jugée comme étant liberticide, eh bien, le Conseil constitutionnel comme la CNIL ont toutefois apporté un certain nombre de limites, hein, puisque les techniques de reconnaissance faciale, les systèmes d'identification biométrique ou toute donnée de cette nature demeurent interdits. Donc ces caméras-là, en fait, ne pourront pas procéder à de la reconnaissance faciale ou traiter des données à caractère biométrique. Et puis surtout, évidemment, ce recours à ces traitements automatisés sera autorisé donc par décret qui sera pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est un système tout à fait classique. Et d'ailleurs, il est aussi précisé qu'une consultation publique pourra être organisée. Alors, il y a aussi d'autres limites, évidemment, puisque la mise en œuvre de ces dispositifs ne sont pas sans aucune condition. Ceux-ci pourront être autorisés en fait par le préfet, sous le contrôle du juge administratif, évidemment. Et des conditions sont également posées par la loi, hein. Le but du recours à ce type de système est évidemment d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui, par leur ampleur ou par leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes. On pense peut-être effectivement au fiasco hein, de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions l'année passée. Alors, on peut toutefois se poser légitimement la question de la pérennité d'un tel dispositif, voire même d'ailleurs hein, de sa généralisation à terme, puisque celui-ci ayant été introduit par le biais d'une expérimentation législative dont nous avions d'ailleurs précédemment parlé dans un podcast.
Oui, je renvoie effectivement à ce podcast sur les expérimentations législatives que nous avions réalisées ensemble, Vincent Mazzocchi. Donc, pour en revenir au volet sécuritaire, on constate, on l'a dit, une meilleure coordination des forces de sécurité, notamment aux abords des installations sportives et dans les transports. Vous venez de nous expliquer les modalités de l'usage de la vidéoprotection par drone avec donc un recours hein, à l'intelligence artificielle. On constate aussi le contrôle du personnel privé de sécurité au moment du recrutement. Tout cela est bien mis en place en vue de maintenir la sécurité dès aujourd'hui et pendant et après la manifestation sportive. Justement, qu'en est-il des mesures de sécurité pendant les manifestations sportives et à l'intérieur des stades ?
Alors, là encore, plusieurs dispositifs ont été prévus, qui consistent également à des modifications du code du sport. Hein. D'abord, en rendant obligatoire pour tous les spectateurs le fait d'être muni d'un billet d'entrée. Il n'est donc plus possible d'accéder à une enceinte sportive en fait, sans être muni de billet. Et pour les plus grandes manifestations sportives, donc notamment les Jeux Olympiques, mais pas uniquement, les organisateurs devront donc délivrer des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables.
Oui, alors si je puis me permettre, ça n'a pas toujours été le cas, hein, ni pour les JO, ni pour les grandes manifestations sportives, d'avoir des billets d'entrée obligatoires et d'avoir des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables, c'est même quelque chose qui est relativement nouveau. On avait hésité, parce que les Jeux Olympiques sont censés être une manifestation sportive très populaire et très ouverte, et on voit effectivement que là, on a pris un dispositif un peu plus resserré. Pardon, je vous ai encore
interrompu. Mais je vous en prie, ça permet aussi et surtout de lutter contre eh bien, les dispositifs vous savez, de vente à la sauvette et de spéculation en fait, économique sur effectivement, des billets qui ont vocation normalement eh bien, à accueillir le plus de personnes possible. Mais là, voilà, c'est un autre débat qui nous emmènera plus loin. Alors pour revenir effectivement sur cette question, après ces billets nominatifs dématérialisés et infalsifiables, eh bien, il a été aussi permis le recours à des scanners corporels à l'entrée des stades, mais aussi d'autres enceintes sportives, récréatives ou culturelles, hein, qui doivent accueillir au minimum, le seuil est fixé, c'est 300 personnes. Donc désormais, c'est autorisé, ce dispositif, du coup, a vocation à être du coup, généralisé, ou en tout cas sans limite dans le temps. Alors évidemment, il y a encore une fois des conditions, hein, puisqu'il s'agit aussi et surtout de trouver un équilibre entre l'ordre public et la garantie des libertés. Et donc les personnes pour eh bien, subir ces scanners corporels devront donner leur accord. Et à défaut, évidemment, on a toujours un dispositif classique hein, de contrôle par palpation. Et puis surtout pour tenter d'éradiquer hein, la violence des délinquants lors des manifestations sportives, qui est un véritable fléau et qui porte une atteinte grave en fait à l'image du sport. Éviter également les intrusions dans les enceintes sportives ou sur des terrains de sport. Eh bien, un autre dispositif a été mis en place puisque le cadre juridique des interdictions judiciaires de stade a été rénové pour être rendu plus systématique. Et puis, on a aussi une aggravation d'un certain nombre de sanctions, hein, notamment pour ce qui va concerner, on l'a dit à l'instant, les intrusions dans les enceintes sportives, qu'elles soient commises en réunion ou en récidive. Elles sont désormais plus sévèrement réprimées. C'est l'article L332-11 du Code du sport qui désormais le prévoit. Et puis, contrebalancement, l'interdiction administrative de stade, qui, elle, est prise par l'administration, est quant à elle allégée sur sa durée, hein, puisqu'on était entre 24 et 36 mois avant, et désormais on passe à 12 et 24 mois. Ces dispositions, effectivement, sont permanentes, et donc il n'y a plus qu'à après envisager et voir si elles produisent des effets concrets.
Vincent Mazzocchi, si vous le voulez bien, abordons encore quelques points importants. Et notamment, j'aimerais que l'on envisage la question de la meilleure offre de soins. Je m'explique. Les blessures et autres accidents lors de ces manifestations, lors de ces spectacles, sont potentiellement et malheureusement souvent nombreuses, notamment compte tenu de l'affluence des spectateurs et des touristes. On le sait, la question a été posée et elle est encore pendante. Les services d'urgence sont susceptibles de se retrouver débordés, étant précisé on le sait, nombre des services sont déjà congestionnés aujourd'hui. Comment analyser cette situation JO et offre de soins ?
Alors c'est effectivement un défi aussi en matière de sécurité, hein, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'un volet atteinte à l'ordre public et lutte contre les actions terroristes. Hein. On a aussi effectivement tout ce côté de sécurité, on pourrait dire sanitaire quasiment. Et alors pour tenter de remédier à cette difficulté, dont les pouvoirs publics ont visiblement bien conscience, comme d'ailleurs l'entièreté des citoyens, hein, aujourd'hui il est très compliqué de pouvoir avoir accès à une offre de soins, eh bien, il a été prévu l'installation d'un centre de santé dans le village olympique et paralympique. Et ce centre de santé, en fait, devrait être géré par la PHP. Et pour faire face à cette pénurie de médecins que nous connaissons tous, des dérogations ont été apportées au Code de la santé publique pour que des médecins étrangers puissent venir y soigner les athlètes. Et puis enfin, pour ce qui concerne le spectateur, nombre d'organismes habilités aux actions de formation en matière de secourisme a été élargi, dans une perspective de former le maximum de monde possible au premier secours, ce qui peut s'avérer être utile compte tenu de l'ampleur de cette manifestation.
Alors Vincent Mazzocchi, on arrive au terme de ce podcast. Nous avons, avec nos auditeurs, fait le tour d'un certain nombre de problématiques qui donc relient les JO et le droit administratif. On a abordé donc différents thèmes. J'aimerais terminer par un dernier thème qui me semble extrêmement important. C'est la question du sport en lui-même, finalement, puisque c'est quand même le cœur et l'objet des Jeux Olympiques. Le sport est gangréné depuis maintenant bien longtemps par le dopage, et il se fait déjà écho qu'un certain nombre de sports, de nations, seraient susceptibles d'utiliser des dopants. Les soupçons de dopage sont de plus en plus marqués, grandissants, sachant que les techniques de dopage, les substances dopantes sont toujours plus perfectionnées. Est-ce que des mesures spécifiques ont été adoptées à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en la matière ?
Alors, il est certain que la lutte contre le dopage n'est pas nouvelle, hein, comme vous le soulignez à l'instant. Il existe d'ailleurs en réalité tout un arsenal juridique qui permet de lutter contre le dopage, qu'on va retrouver globalement dans le Code de la santé publique et dans le Code du sport. Alors, pour exposer et mettre en lumière ces nouveaux dispositifs, il convient quand même de revenir de manière assez schématique sur l'organisation en France de la lutte contre le dopage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette lutte contre le dopage est confiée à l'Agence française de lutte contre le dopage, donc l'ALFD, hein, et donc c'est une autorité publique indépendante, c'est comme ça que le code du sport le qualifie. Ce qui est toutefois nouveau, c'est le dispositif qui est institué par la loi du coup du 19 mai 2023, c'est l'article 5 qui le prévoit, et qui insère des dispositions dans le code du sport permettant aux laboratoires français accrédités par l'Agence mondiale de lutte antidopage de procéder à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis par les sportifs à des tests génétiques et bien sur l'ensemble des participants. Comparaison par le biais de comparaisons d'empreintes génétiques ou d'examens de caractéristiques génétiques. Alors toutefois, le Conseil constitutionnel a sorti ce dispositif législatif d'une réserve d'interprétation, puisqu'il explique que, certes, ces dispositions ne sont pas contraires au droit constitutionnel à la vie privée, si les autorités administratives compétentes s'assurent, sous le contrôle du juge, hein, que les conditions dans lesquelles l'information est délivrée aux sportifs sont de nature à garantir que, je cite, en décidant de prendre part à la compétition, il consent également à ce que ces échantillons prélevés puissent faire l'objet d'analyses génétiques. Donc très concrètement, on peut mettre en place ce dispositif, mais il faut avertir le sportif eh bien, que ces prélèvements sanguins ou urinaires feront l'objet de tests génétiques. Et puis bien évidemment, ces techniques-là ne peuvent pas conduire non plus à réaliser un profilage ou des examens de cette nature. Alors, toutefois, lors de la discussion du texte, hein, ces nouvelles techniques ne devaient être autorisées que jusqu'à fin 2024. Et à l'issue du débat parlementaire, eh bien, ces dispositifs ont été inscrits sans limitation de durée dans le code du sport. Le dispositif, là encore, est devenu pérenne.
Oui, on voit ainsi, et comme c'est traditionnel, hein, que le débat, finalement, eh bien, on revient à se poser la question... de la limite et de la conciliation entre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux d'un côté et l'ordre public de l'autre. Ici, l'ordre public étant marqué par la lutte contre le dopage et la sincérité, la loyauté dans les épreuves et les manifestations sportives. Vincent Mazzucchi, merci pour cet éclairage, merci pour être revenu avec nous. C'est toujours très difficile d'aborder de manière transversale une telle question. Vous avez réussi en quelques minutes à nous éclairer sur les différents aspects, les différents thèmes relatifs aux JO qui sont susceptibles eh bien, d'interférer avec le droit public. Et puis surtout, vous avez réussi à mettre en exergue toutes les questions liées à ces réglementations très particulières et très spécifiques. Vincent Mazzucchi, j'allais vous redire bonjour. Merci pour ce podcast et j'espère vous retrouver très bientôt dans les podcasts de l'ISP.
Eh bien, merci beaucoup Jacob Berrewi pour votre invitation et puis ce sera un grand plaisir que de pouvoir y participer de nouveau.
Merci à tous, au revoir.